parler de la messe. Alors, je pense que vous devez savoir ce que c'est que la messe, j'espère. Mais je pense qu'il est bon, malgré tout, toujours d'approfondir cette, le centre de notre religion, puisque la messe est au centre de notre religion. Et puis, il déclare pour nous-mêmes, afin de pouvoir faire de l'apostolat. Parce que très souvent, on croit connaître les bases de notre religion, et lorsque les gens de notre entourage nous posent des questions qui peuvent paraître toutes bêtes, eh bien, on n'a pas toujours les mots justes, on ne sait pas toujours comment répondre. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'expliquais justement à un jeune, un jeune étudiant de ma promotion, ce que c'était que la messe. Je lui disais que la messe, c'était un sacrifice. Et lui m'avait répondu, pour moi, c'est pas un sacrifice d'aller à la messe. Donc, il n'avait pas tellement compris la notion de sacrifice. Mais j'étais un petit peu dérouté par son objection, parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors, il fallait lui expliquer que c'était, on ne parlait pas exactement de la même chose. Alors la messe, on va pouvoir l'étudier de deux manières. On peut l'étudier, la messe, sous l'angle du sacrifice, justement. Ce sera le premier aspect. Et on peut l'étudier encore sous l'angle du sacrement. Et peut-être que nous-mêmes, on peut avoir tendance à voir dans la messe avant tout l'aspect sacrement. On pense qu'on va à la messe pour communier. Et la communion, c'est bien justement le sacrement de l'Eucharistie que nous recevons. Alors bien sûr que pour nous, enfin pour les fidèles, subjectivement, le moment principal de la messe, c'est la communion, puisque c'est le moment où on s'unit à notre Seigneur, le plus intimement. C'est le moment où il y a ce contact intime entre notre Seigneur et nous, au plus profond de notre âme. Mais objectivement, le moment principal de la messe, ce n'est pas la communion. Le moment principal, c'est la consécration. Parce que c'est là qu'a lieu l'immolation de notre Seigneur. Et Mgr Lefebvre disait que peut-être qu'une partie de la crise de l'Église était venue de là, du fait que dans la messe, au fil des siècles, on avait vu de plus en plus l'aspect sacrement au détriment de l'aspect sacrifice. Donc on a vu la messe communion. Alors bien sûr, après on a pu glisser de la messe communion à la messe repas, parce que la communion, ben, c'est la nourriture, donc nourriture eucharistique, et finalement on a passé de cette notion de messe nourriture à la notion de messe repas. Alors pour retrouver le vrai sens de la messe, il faut se rappeler que la messe, avant d'être un sacrement, est un sacrifice. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? Eh bien, pour le comprendre, il faut voir en quoi consistaient tout d'abord les sacrifices dans l'Ancien Testament et même dans les autres religions, parce qu'il n'y a pas de religion sans sacrifice. Et pourquoi parler même des sacrifices dans les autres religions ? Eh bien, pour vous montrer que le modernisme n'est qu'une pseudo-religion, puisque dans le modernisme, il n'y a même plus de sacrifices. On a tellement tué cette notion de sacrifice qu'elle n'existe plus. Et une religion sans sacrifice n'est même plus une religion. Ce n'est même plus une fausse religion, ça n'a plus que la religion de l'homme, comme on le dit. Donc ce n'est plus un lien entre l'homme et Dieu, mais l'homme ne se retrouve plus que lui-même, comme on le voit aujourd'hui. Alors regardons tout d'abord la place du sacrifice donc dans toutes les religions. Tout d'abord dans la religion naturelle. On entend la religion naturelle, la religion qui vient finalement de l'intérieur de l'homme. L'homme, ayant une certaine notion de Dieu, va chercher à rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et une manière de rendre à Dieu un culte va être de lui offrir des sacrifices. Ainsi, Abel offre les premiers-nés de son troupeau. On voit ça dans Genèse chapitre 4, versets 3 et 4. Noé, à son tour, va prendre des animaux purs et il va offrir des holocaustes sur l'autel. chapitre, toujours dans la Genèse, chapitre 8, versets 20 et 21. Melchisédek, ensuite, va apparaître, cet homme mystérieux, puisqu'on dit qu'il était sans père, sans mère et sans généalogie, il va offrir du pain et du vin. Et on dit qu'il était prêtre du Très-Haut. Alors ce pain et ce vin étaient bien sûr déjà une figure de la matière qui va servir au sacrifice dans le Nouveau Testament. Parce que tout ce qui se produisait dans l'Ancien Testament était figure de ce qui devait se dérouler dans le Nouveau Testament. Donc c'est en tant que figure que le pain et le vin étaient représentés dans l'Ancien Testament. Donc ça c'est toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 18. Et ensuite, on voit que Dieu va dire à Abraham, « Offre ton fils unique, Isaac, en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Donc Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils unique. Et là encore, Isaac, fils unique d'Abraham, est l'image de notre Seigneur, fils unique du Père éternel. Ensuite, on retrouve même cette notion de sacrifice, par exemple, dans les religions gréco-latines. Dans le temple sont sacrifiés des animaux au cours de cérémonies liturgiques. Il y a une oblation de la victime, une immolation de la victime, et ensuite une manducation de la chair par les prêtres ou par le peuple. Dans les autres religions qui sont répandues en Italie et en Grèce, on voit par exemple le mystère d'Eleusis, où il y avait des sacrifices de porcs, ou la religion d'Attis, où il y avait des sacrifices de taureaux, ou encore dans le culte de Mitra, le sacrifice de taureaux avec aspersion du sang et communion à la divinité sous l'espèce de pain et d'eau. Ensuite, chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, il va y avoir encore trois catégories de sacrifices. Tout d'abord, l'Holocauste. Qu'est-ce que c'est que l'Holocauste ? C'est un sacrifice au cours duquel la victime est entièrement consumée. Et le but de l'Holocauste est d'exprimer la révérence de l'homme à l'égard de la majesté de Dieu. On offre tout pour montrer, donc toute la victime, pour montrer que tout vient de Dieu. Donc le sens du sacrifice, c'est de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et on essaie d'offrir à Dieu ce qu'il y a de plus grand dans la création. Ce qu'il y a de plus grand dans la création, au-dessus des minéraux et des végétaux, ce sont les animaux. Alors comme c'est contre nature que d'offrir des hommes, on n'offre pas des hommes, on n'immole pas des hommes, sauf dans les fausses religions, malheureusement. Mais dans le plan de Dieu, on offre un animal, l'animal étant donc ce qu'il y a de plus grand dans la création, et l'animal étant un être vivant, ayant reçu la vie de Dieu, on tue l'animal pour manifester que cette vie vient de Dieu et on offre cet être au bon Dieu. On rend au bon Dieu la vie qu'il nous a donnée par le sacrifice d'un animal. C'est le sens même du sacrifice. Alors, au-delà de l'Holocauste, après, en dehors de l'Holocauste, il y avait le sacrifice pour le péché. Dans le sacrifice pour le péché, une partie de la victime était brûlée et l'autre était mise de côté pour la nourriture des prêtres. Et ensuite, troisième catégorie de sacrifice, ce sacrifice pour le péché, c'était donc un sacrifice de satisfaction. Quand l'homme avait péché pour satisfaire au bon Dieu, pour se réconcilier avec le bon Dieu, on offrait à nouveau donc un sacrifice, qu'on appelait le sacrifice pour le péché. Troisième catégorie de sacrifice, l'hostie pacifique, ou sacrifice d'action de grâce. Donc on offrait essentiellement ce sacrifice pour rendre grâce au bon Dieu, ou également pour lui demander une grâce particulière. Alors là, une partie est brûlée, une partie est consommée par le prêtre, et une troisième partie est consommée par les fidèles qui ont offert cette hostie pacifique. Mais donc, on voit d'une façon générale, sauf exception, dans tout sacrifice, le sang est répandu. Parce que le sang est indispensable à la vie, Et par conséquent, l'effusion du sang manifeste que la vie nous est donnée par Dieu. De plus, le fait de tuer les animaux, le fait de les mettre à mort, signifie la destruction des péchés, signifie le regret que l'on a de nos péchés. Et comme on ne peut pas se mettre à mort soi-même, donc on tue un animal. Mais le but, c'est de manifester ce désir de mourir au péché. Saint Thomas le dit bien. Par leur péché, les hommes sont passibles de mort. Ainsi, des animaux sont tués à leur place pour signifier l'expiation des péchés. Saint Thomas, dans sa Somme théologique, dans la Prima Secundae, question 102, article 3. Et c'est là le sens du bouc émissaire, qui était l'animal que l'on chargeait des péchés des hommes et que l'on tuait ensuite à l'extérieur de la ville. Et si on le tuait à l'extérieur de la ville, c'était encore une image de la mort de notre Seigneur qui est mort hors des portes de la ville de Jérusalem. Alors, à travers tous ces sacrifices qu'on a pu voir, on peut découvrir maintenant le but du sacrifice. Le but premier, c'est l'adoration. L'homme, en tant que créature, doit la soumission totale à Dieu. Et l'homme doit manifester au bon Dieu que toute la création vient de lui. Et par conséquent, il rend à Dieu une créature en l'immolant. Cette soumission que l'homme doit à Dieu requiert l'action de grâce. Si on reconnaît que tout nous vient de Dieu, on doit lui rendre grâce pour les biens qu'il nous a donnés. Donc, à l'adoration succède ensuite l'action de grâce. Ensuite, si on reconnaît que tout nous vient de Dieu, on doit encore se tourner vers Dieu pour acquérir les biens dont nous avons besoin. Donc, troisième sens du sacrifice, la prière de demande pour acquérir ce dont nous avons besoin. L'action de grâce est par rapport au bien reçu, la prière par rapport au bien à recevoir. Et comme malheureusement l'homme est coupable à l'égard de Dieu, est requis d'abord, pour pouvoir être agréé par Dieu, l'expiation. Et donc c'est la quatrième but du sacrifice, l'expiation des péchés. Ensuite, l'auteur du sacrifice. L'auteur du sacrifice, ce n'est pas n'importe quel homme, mais un homme consacré. Un homme consacré qui apparaît comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme qui est mis à part des hommes et qui a pour but de représenter les hommes dans ce qui regarde les choses de Dieu. Le rôle de ce médiateur, c'est de transmettre les choses divines aux âmes et également de représenter les âmes auprès de Dieu. Donc, médiation descendante et médiation ascendante. Également, un élément, à mon avis, très important à signaler, pour mieux comprendre après l'erreur de la nouvelle messe, ce sera la prochaine instruction, dans 15 jours, et je l'ai faite volontairement après, parce que quand on a compris ce que c'est que la messe, on comprend mieux les déviations de la nouvelle messe. Mais je le signale dès maintenant, on constate que dans tout sacrifice, il y a tout d'abord l'offrande de la victime. L'offertoire, c'est l'offrande de la victime. On offre une victime, c'est-à-dire qu'on la met à part pour qu'elle soit consacrée à Dieu. Une fois qu'on l'a mise à part, ensuite on l'immole, on sépare son corps et son sang. Et ensuite, on consomme la victime, troisième partie. Or, vous le constatez, dans la nouvelle messe, on n'offre plus la victime, mais on offre le fruit de la terre et du travail des hommes. Donc ça n'a plus rien à voir avec le pain et le vin de l'offertoire, n'a plus rien à voir avec l'hostie qui va être immolée à la consécration. Donc on a détaché une partie essentielle du sacrifice de la partie centrale, ce qui bien sûr tend à atténuer la notion de sacrifice au profit de la mémoire. On aurait l'impression que finalement la partie centrale de la messe, on fait mémoire de ce que le Christ a pu faire au cours d'un repas. Et donc ça accentue l'aspect repas au détriment de l'aspect sacrificiel. Donc ça n'a absolument aucun sens d'offrir. Le fait en soi d'offrir du pain et du vin, c'est une très bonne chose. On le voit d'ailleurs même dans les messes, dans les liturgies traditionnelles, en Bretagne, encore il n'y a pas longtemps, et peut-être que ça se faisait aussi ailleurs, on offrait, à la fin de la messe, il y avait le pain qu'on bénissait et qu'on offrait à la fin de la messe, qui avait pour but aussi de symboliser l'union entre les fidèles. Et comme tous les fidèles ne sont pas toujours en état de communier, eh bien ce pain qui était distribué, ou ces brioches qui étaient distribuées à la sortie de la messe, avait pour but de symboliser l'union des fidèles. Mais autre chose est ce pain béni, autre chose est la communion à notre Seigneur. On n'est pas du tout sur le même plan. Donc, voyez-vous, je suis parti volontairement de très loin, de la notion de sacrifice dans l'Ancien Testament et même dans les fausses religions, pour vous montrer ce qu'est un sacrifice et pour vous aider donc à mieux comprendre tout d'abord ce que va être le sacrifice de notre Seigneur et ensuite ce qu'est la messe, puisque la messe reproduit mystérieusement le sacrifice de notre Seigneur. Alors, est-ce que l'on peut retrouver dans le sacrifice de notre Seigneur au calvaire, c'est la deuxième partie, le sacrifice de notre Seigneur, est-ce qu'on peut retrouver les quatre fins du sacrifice? Eh bien oui, tout d'abord l'adoration. Notre Seigneur, en se soumettant à son Père et en faisant un avec son corps mystique, professe par là le souverain domaine de Dieu sur toute la création. L'acte premier de notre Seigneur en venant en ce monde est un acte d'adoration. Et toute sa vie, notre Seigneur n'a qu'un seul souci, se soumettre à la volonté de son Père, accomplir la volonté de son Père. On peut dire que toute la vie de notre Seigneur était une vie d'adoration. Ensuite, l'action de grâce. On voit tout au long de la vie de notre Seigneur, et également même la veille de sa passion, notre Seigneur rendre grâce à son Père pour la vie qu'il a reçue de lui. Ensuite, il demande également toutes les grâces qui sont nécessaires même à son corps mystique, comme le dit saint Paul. Saint Paul dit, c'est lui, en parlant de notre Seigneur, qui, alors qu'il vivait dans la chair, offrit prières et supplications accompagnées d'un grand cri et de larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé pour sa piété. Donc, allusion aux prières de notre Seigneur sur la croix. Et enfin, quatrième partie du sacrifice, quatrième fin du sacrifice qu'on retrouve au calvaire, c'est la satisfaction, la propitiation pour nos péchés. Saint Paul encore, aux Hébreux toujours, il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause efficiente de leur salut éternel. Donc notre Seigneur devient l'instrument de notre rachat, parce qu'il a satisfait pour nos péchés. Donc bien sûr, le sacrifice du calvaire est un sacrifice propitiatoire. Il dit encore plus simplement dans l'Épître aux Corinthiens, le Christ est mort pour nos péchés. Donc le sacrifice de la croix est bien un sacrifice propitiatoire. Alors, en quoi a consisté le sacrifice de notre Seigneur? Est-ce qu'on va retrouver les trois aspects que je viens de nommer il y a un instant? L'aspect d'offrande, donc d'offertoire, d'offrande de la victime, l'aspect de l'immolation de la victime, et enfin l'aspect de la consommation de la victime. L'oblation, l'offertoire, c'est l'état d'âme de notre Seigneur. Au moment de sa venue au monde et tout au long de sa vie, notre Seigneur, comme je l'ai dit, s'est offert à son Père. Et c'est cela, l'offertoire, que l'on voit donc dans la vie de notre Seigneur. L'immolation de notre Seigneur, eh bien, elle a lieu sur la croix, lorsque il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous. Et c'est pourquoi saint Jean a soin de préciser qu'il vit sortir du sang et de l'eau, pour bien montrer qu'il avait versé pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et enfin, la communion. Alors, la communion avait été faite par anticipation la veille, le jeudi saint au soir. Et on ne doit pas séparer le jeudi saint du vendredi saint. Le jeudi saint ne se comprend que par rapport au vendredi saint. Donc, c'est par anticipation que la communion avait été faite, mais c'était bien la communion à la victime, la communion qui a eu lieu le jeudi saint au soir. Puisque notre Seigneur a bien dit, ceci est mon sang livré pour vous. Le sang livré. Donc maintenant, il est intéressant à noter que on ne doit pas mettre sur le même plan les sacrifices de l'Ancien Testament, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les sacrifices des fausses religions encore moins, ils étaient nommés entre parenthèses, en quelque sorte, et le sacrifice de notre Seigneur. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient aucune valeur en eux-mêmes. Ils n'avaient une valeur uniquement en tant qu'ils signifiaient par avance le sacrifice de notre Seigneur. Et par conséquent, de par le lien qui les unissait au sacrifice de notre Seigneur, par anticipation, ils pouvaient avoir une valeur purificatrice. Mais ils n'avaient aucune valeur en eux-mêmes. Donc, on peut dire que toute l'histoire de l'humanité converge vers le sacrifice de notre Seigneur. Et si le bon Dieu a mis dans le cœur de l'homme ce désir de lui sacrifier ce qu'il y a de plus cher dans la création, c'est justement parce qu'il savait que le sacrifice était le seul moyen par lequel l'homme pouvait revenir en grâce auprès de lui. Mais pour que ce sacrifice puisse lui être agréable, il fallait qu'il y ait une victime qui soit à la hauteur de Dieu. Donc il fallait que ce soit Dieu lui-même qui vienne prendre une nature humaine et qu'il meure pour nous sur la croix pour nous racheter. Parce que l'offense qui était faite à Dieu était une offense qui était en quelque sorte infinie. Donc seul un Dieu infini pouvait racheter la faute qui était infinie. Mais toute l'histoire de l'humanité converge vers cette passion de notre Seigneur. Et c'est si vrai que, comme nous allons le voir, le sacrifice de la messe va à son tour reproduire le sacrifice du calvaire. Donc le sacrifice du calvaire est un sommet. Auparavant, il y a eu les sacrifices qui étaient des figures, et maintenant il y a le sacrifice de la messe qui reproduit ce même sacrifice du calvaire. Et notre Seigneur a appelé son sacrifice son heure. Donc tout le centre de notre religion, c'est le sacrifice du calvaire. Et la messe, c'est cela. Récemment, j'avais des petits-enfants, ils ont fait 2 ans de catéchisme. Je leur demandais qu'est-ce que c'est que la messe. Et bien, ils disent, la messe, c'est un lieu où on se rassemble. Oui, très bien, on se rassemble. Bon. À l'école aussi, on se rassemble. Est-ce qu'il y a un petit plus à la messe? Oui, c'est on se rassemble, et on se rassemble pour prier Dieu. Je dis, oui, c'est bien, c'est pour prier Dieu. Mais c'est tout ce qu'ils savaient. Ils ne se rendaient pas compte du tout que la messe, c'est la reproduction du sacrifice du calvaire. Donc c'est... Faire de la messe uniquement un lieu de rassemblement entre fidèles, c'est pas... Dans la DAP, association à l'absence de prêtre, il y a aussi un rassemblement où on prie Dieu. Donc il n'y a plus aucune différence finalement, que le prêtre soit là ou qu'il ne soit pas là. Comme c'est un simple président, quand le président n'est pas là, on peut le remplacer. Et malheureusement, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et c'est triste parce qu'on voit que les notions les plus élémentaires, les plus fondamentales de notre religion sont absolument perdues aujourd'hui. Le péché moderne, c'est un péché essentiellement par omission. Il y a aussi des négations, mais la première négation, c'est l'omission. Si pendant 20 ans, on ne vous parle plus des anges, ben, vous direz, mais est-ce que les anges existent vraiment? Tandis que si pas chaque semaine forcément, mais si plusieurs fois tout au long de l'année, on vous parle des anges, eh bien, ça devient familier. L'univers des anges vous est familier. Donc, vous ne poserez pas la question si les anges existent. 2 enfants que j'ai eus au catéchisme, ils ont fait 2 ans de catéchisme dans 2 écoles différentes. Je leur pose la question, combien y a-t-il de dieux? Réponse, un seul Dieu. C'est déjà pas mal. Deuxième question, combien de personnes y a-t-il en Dieu? Alors là, ils ne savent pas. Alors, pour l'une d'entre elles, je dis, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est déjà bien. Je n'ai pas répondu à la Sainte Vierge, j'ai répondu le Saint-Esprit. C'est déjà pas mal. 3e question, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Réponse des 2 enfants, interrogés séparément, qui sont dans 2 écoles différentes et qui ont toutes les 2 eu 2 ans de catéchisme. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Non. Jésus-Christ est à Dieu. Donc c'est quand même symptomatique de la formation. J'espère que chez nous, si on interroge des enfants qui ont fait 2 ans de catéchisme ici, en plus, bon, c'est des enfants qui ont 8-9 ans, les enfants de 8-9 ans ici au catéchisme, j'espère qu'ils vont nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Sinon, ça va barder. Qu'est-ce que le Saint-Sacrifice de la messe, alors ? Eh bien, le Concile de Trente nous dit que la messe est un sacrifice visible qui rend présent le sacrifice de la croix. Première partie de la définition, sacrifice visible qui rend présent le sacrifice de la croix. Deuxième partie, afin que son souvenir soit maintenu. Troisième partie, et que la vertu du sacrifice du calvaire en soit appliquée à tous les fidèles. Donc je vais essayer de développer ces 3 points. Tout d'abord, je vais parler de l'aspect souvenir, afin que son souvenir soit maintenu, donc de l'aspect mémorial. La messe a été instituée pour nous rappeler le sacrifice de la croix. C'est un aspect qui est réel. Malheureusement, le drame aujourd'hui, c'est qu'on ne voit plus que cet aspect-là, et cet aspect est un aspect réel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout d'abord, nous rappeler le sacrifice de la croix ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toute la vie de notre Seigneur était centrée sur son sacrifice. Notre Seigneur l'a appelé son heure. Par conséquent, il faut que notre esprit se tourne vers ce sacrifice de notre Seigneur. Comme c'est le moment principal de la vie de notre Seigneur et de l'histoire de l'humanité, il est capital que tout baptisé puisse bien connaître ce que notre Seigneur a fait pour nous sur la croix et puisse s'en souvenir. Et c'est pourquoi notre Seigneur, le soir du Jeudi Saint, dit à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi ». Il dit bien « en mémoire », donc il fait une allusion à la mémoire. Étant donné que c'est le moment le plus important de notre Seigneur, il ne faut surtout pas l'oublier. Et dans l'oraison du Tantum Ergo, le prêtre dit « Dieu qui, sous un sacrement admirable, nous avait laissé un mémorial de votre passion ». Donc, allusion encore à l'aspect mémorial. Mais remarquez qu'il ne s'agit pas d'un mémorial de la scène, mais d'un mémorial de la passion. Donc la messe n'est pas un banquet. La messe est en relation avec la croix, et non pas avec la scène. Ou plus exactement, la scène elle-même n'est pas un banquet, mais la première représentation par anticipation du sacrifice de la croix. La scène tire sa valeur de la croix. Donc la messe est là pour nous rappeler le sacrifice de la croix, et non pas pour faire mémoire d'un repas que le Christ aurait pris avec ses apôtres. Mais s'il est vrai que l'aspect mémoire est un aspect qu'on peut souligner, parce qu'il est très important, malgré tout, il ne faut pas réduire la messe à cet aspect mémorial. Notre Seigneur n'a pas dit « faites mémoire de ceci », comme si l'aspect mémoire était le plus important, mais il a dit « faites ceci en mémoire ». Faites ceci, donc reproduisez ce que j'ai fait. Réactualisez ce que j'ai fait. Donc la messe est un acte. Et cet acte n'est autre que le sacrifice du calvaire qui est rendu présent sur nos autels. D'où la définition ensuite du Concile de Trente. La messe est un sacrifice visible qui rend présent le sacrifice de la croix. Comme le dit le catéchisme, la messe, c'est vraiment le sacrifice du calvaire. Seule la manière d'offrir est différente. À la messe, il n'y a plus d'effusion de sang. Il n'y a pas de nouvelle mort de notre Seigneur, puisque notre Seigneur vit maintenant au ciel. Mais sinon, tout le reste est identique. Dans tout sacrifice, il y a un prêtre, il y a une victime. Eh bien, à la messe, notre Seigneur est à la fois prêtre et victime. Et là aussi, il faut se rappeler que notre Seigneur est prêtre. On voit la messe, l'aspect victime. On voit l'aspect hostie. On voit que notre Seigneur est là, présent dans l'hostie. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur est là aussi, présent derrière le prêtre que vous voyez. Le prêtre que vous voyez n'est simplement qu'un instrument. Donc il ne faut pas oublier de voir notre Seigneur présent, non seulement dans l'hostie, mais présent à travers le prêtre. Le prêtre à la messe est tellement identifié à notre Seigneur qu'au moment de la consécration, il ne dit pas « ceci est le corps de notre Seigneur », mais « ceci est mon corps ». Par conséquent, toute la vertu, toute la puissance de notre Seigneur passe à travers les paroles du prêtre à la messe. Et c'est pourquoi saint Jean Chrysostome disait « lorsque tu vois le prêtre qui offre le sacrifice, considère la main du Christ invisiblement étendue ». Et à la messe, la victime, c'est encore notre Seigneur. Et sa mort est représentée par la double consécration. Dans tout sacrifice, nous l'avons vu, il y a séparation du corps et du sang. Mais ici, comme je l'ai dit, il n'y a plus cette séparation comme au calvaire, puisque notre Seigneur ne meurt plus. Cependant, il y a la séparation des signes apparents. Des signes apparents, à savoir du pain d'un côté qui devient le corps de notre Seigneur et du vin de l'autre qui devient le sang de notre Seigneur. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps », notre Seigneur vient tout entier, bien sûr, dans l'hostie, mais il vient en vertu de son corps. Le prêtre appelle le corps de notre Seigneur. Et comme on ne peut pas séparer son corps de son sang, ni de son âme, ni de sa divinité, c'est notre Seigneur tout entier qui vient quand le prêtre dit « ceci est mon corps ». Mais il vient en vertu du corps. Ensuite, à la deuxième consécration, le prêtre va dire « ceci est mon sang ». Donc, le prêtre appelle en quelque sorte le sang de notre Seigneur. Le sang de notre Seigneur descend sur l'autel, et comme on ne peut pas séparer le corps du sang, en appelant le sang, le corps vient également, ainsi que l'âme et la divinité. Mais ils viennent en vertu du sang. Et par conséquent, le fait qu'il y ait deux consécrations distinctes manifeste sacramentellement cette mort de notre Seigneur. Et c'est si vrai que si le prêtre mourait après la consécration au corps, il y aurait, notre Seigneur serait présent tout entier, mais il n'y aurait pas de sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait la double consécration. Alors que notre Seigneur reste présent tout entier dans l'un et dans l'autre. Parce que dans un cas, il vient en vertu du corps et dans l'autre en vertu du sang. Et que ce n'est que la double consécration qui peut manifester le sacrifice, puisque le sacrifice suppose la séparation du corps et du sang. Séparation ici qui n'est pas physique, mais qui est sacramentelle. Et c'est cette double consécration qui va non seulement représenter la mort de notre Seigneur, mais plus que cela, elle va reproduire les effets de la mort de notre Seigneur. C'est-à-dire qu'au moment de cette double consécration, même si le sang ne coule plus sur l'autel, notre Seigneur va continuer malgré tout de s'immoler et de s'offrir avec les mêmes sentiments, avec la même générosité qu'au calvaire. D'où la troisième partie, maintenant, de la définition de la messe. La messe rend présent le sacrifice de la croix pour que la vertu du sacrifice du calvaire nous soit appliquée. La raison de la nécessité de la messe, c'est la raison de l'application des mérites de notre Seigneur. Il est vrai que notre Seigneur, sur la croix, a pu acquérir des mérites pour sauver tous les hommes. Mais ensuite, l'application de ces mérites, de par le plan de Dieu, se produit par les sacrements qui nous sont donnés. Donc les mérites ont été acquis sur la croix, mais l'application de ces mérites nous sont donnés par les sacrements, donc par la messe et par les autres sacrements. Alors parmi les effets de la messe, les uns regardent Dieu et les autres nous regardent. À la messe, tous les actes de notre Seigneur qui regardent Dieu sont les mêmes que ceux du calvaire. À la messe, notre Seigneur rend à son Père une gloire infinie. Il rend un hommage parfait à son Père. De même, il rend grâce à son Père pour tous les dons de Dieu, pour tous les trésors de la création, pour la rédemption, pour le salut de nos âmes. On dit que l'action de grâce, le fait de remercier quelqu'un, consiste à rendre d'une manière ce qu'on a pu nous donner. Rendre d'une certaine manière ce qu'on a pu nous donner. Or, justement, le plus grand don que l'homme ait pu recevoir, c'est l'immolation de notre Seigneur. Et c'est pourquoi, à la messe, notre Seigneur offre à son Père, rend à son Père, en quelque sorte, le sacrifice de la croix. Et c'est pourquoi il n'y a pas plus grande action de grâce, bien sûr, que celle qui se produit à la messe à travers les dispositions de notre Seigneur. Donc la messe a une valeur infinie et un prix infini, parce que la louange et l'action de grâce de notre Seigneur sont les mêmes à la messe qu'au calvaire. Et ces effets sont infaillibles, quelle que soit la sainteté du prêtre. Quelle que soit la sainteté du prêtre, notre Seigneur, à la messe, loue son Père et rend grâce pour tous les biens qu'il a reçus de lui et que l'homme a reçus également. Mais par contre, les deux autres fins de la messe nous regardent directement. À la messe, notre Seigneur répare à notre place également et il prie pour nous. Mais ces deux actes, ces deux derniers actes, vont avoir une efficacité plus ou moins grande en fonction de notre réceptivité à la grâce. Si, comme je l'ai dit, le but de la messe est de nous appliquer les mérites de la Passion, cette application des mérites dépend de nos dispositions. D'abord de la disposition du prêtre, mais ensuite aussi de la disposition des fidèles. Alors, bien sûr, nouvelle question, que faire pour tirer un plus grand profit de notre assistance à la messe? Quelle disposition cultiver pour que notre Seigneur nous applique avec une plus grande efficacité les mérites de sa Passion? Le pape Pie XII disait dans son encyclique sur la messe, « Il est nécessaire que tous les chrétiens considèrent comme un devoir principal et un honneur suprême de pouvoir participer au Saint-Sacrifice de la messe. » On doit considérer comme étant un devoir, l'assistance à la messe, mais non seulement un devoir, mais comme un honneur suprême. La messe ne doit pas être une corvée. Et à la messe, c'est pas non plus, comme disait Mgr Felet, dans une instruction qu'il faisait sur la messe, il disait, certains ont l'impression que, aller à la messe, on va faire un petit cadeau au bon Dieu, pour faire plaisir au bon Dieu, on va à la messe. Mais c'est pas ça la messe. La messe, au contraire, le plus beau cadeau que le bon Dieu nous donne. C'est pas nous qui faisons un cadeau en allant à la messe, il ne faut pas inverser les rôles. C'est notre Seigneur qui nous fait le plus beau cadeau que de le pouvoir nous permettre de nous enrichir de ses trésors. Alors bien sûr que là on balbutie, on essaie d'expliquer un petit peu. C'est le rôle des prêtres et des théologiens. Mais je crois que c'est le curé d'Ars qui disait que si vous comprenez ce que c'est que la messe, on mourrait d'amour. Mais malgré tout, il faut essayer de s'en faire une juste idée. Et c'est pour cela que vous êtes là. Et c'est pour cela que j'approfondis avec vous cette notion. Alors le pape Pie XII poursuit en disant que nous devons assister à la messe avec une intention qui nous unisse au souverain prêtre, nous offrant par lui et avec lui. Donc la disposition première qui nous est demandée, eh bien, c'est de réaliser ce que notre Seigneur fait à la messe, puisque notre Seigneur est là, prêtre et victime, et de s'unir à ses intentions. Puisque notre Seigneur à la messe est le médiateur entre Dieu et nous, le prêtre que vous voyez étant simplement un instrument, Si on veut pouvoir obtenir tous les fruits de la messe, il faut essayer de rentrer dans l'esprit de notre Seigneur qui parle en notre nom et qui s'offre en notre nom. Alors, les fidèles offrent le sacrifice par le prêtre. Le prêtre agit au nom des fidèles. Il les représente. C'est lui qui offre le sacrifice. C'est le prêtre qui offre le sacrifice. Et lui seul qui rend présent notre Seigneur sur l'autel. Mais les fidèles doivent s'unir à son intention. Donc, avant la consécration, les fidèles doivent essayer de prier notre Seigneur de descendre sur l'autel pour s'unir à l'intention du prêtre qui fait descendre notre Seigneur sur l'autel. Mais ensuite, après la consécration, une fois que la victime est présente sur l'autel, les fidèles, avec le prêtre, offrent la victime à Dieu le Père. Donc là, après la consécration, non seulement ils offrent le sacrifice par le prêtre, mais ils offrent le sacrifice avec le prêtre. Dans la prière qui suit tout de suite la consécration, la première prière qui suit la consécration, le prêtre dit « C'est pourquoi nous, votre serviteur, donc, c'est le prêtre qui parle en son nom, et avec nous, votre peuple saint, nous offrons à votre divine majesté. » Donc on utilise le pluriel en disant « Nous offrons à votre divine majesté, nous, le prêtre, et également votre peuple saint, donc les fidèles qui sont là. » Nous offrons à votre divine majesté le don que nous avons reçu de vous, l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie sans tache. Donc, première manière de participer à la messe, offrir par le prêtre le sacrifice de la messe en s'unissant à l'intention du prêtre qui fait descendre notre Seigneur sur l'autel. Deuxième manière de participer à la messe, offrir avec le prêtre la divine victime. Il est évident qu'on ne peut rien offrir de mieux au bon Dieu que Dieu lui-même. Et parfois, on se dit, mais comment est-ce que je peux savoir si le bon Dieu va agréer mes pauvres petites actions? Eh bien, à la messe, nous avons le moyen d'offrir quelque chose de beaucoup plus grand, à savoir notre Seigneur lui-même. Et là, on peut être sûr que cette offrande sera agréée, puisque c'est notre Seigneur qui s'offre pour nous sur l'autel à la messe. Et c'est comme cela que la messe peut nous impliquer les mérites de la passion. Le bienheureux Léonard de Port-Maurice disait « Je crois que si la messe n'existait pas, le monde aurait déjà péri parce que Dieu n'aurait pu supporter plus longtemps le poids de tant de péchés. » Donc la messe est en quelque sorte le paratonnerre de la colère de Dieu. La messe retient la justice de Dieu et permet à sa miséricorde de s'exercer. Mais il faut encore aller plus loin. Si on veut vraiment retirer tous les fruits de la messe, il faut encore faire plus que redonner Dieu à Dieu. Il faut essayer d'épouser nous-mêmes les sentiments de notre Seigneur. Et c'est bien sûr le plus difficile. Dans le premier cas, on offre notre Seigneur, mais on est extérieur. Mais maintenant, il ne suffit pas simplement d'offrir notre Seigneur comme étant quelqu'un d'extérieur à nous. Il faut essayer nous-mêmes de nous offrir avec notre Seigneur. Et pour cela, d'épouser les sentiments qu'il a à la messe. Donc il faut s'unir à sa soumission tout d'abord, à son humilité, sa soumission totale à la volonté de Dieu, à sa louange, à son action de grâce, à sa prière. À la messe, notre Seigneur prie bien sûr pour nous, mais il prie en même temps pour toutes les âmes. Il prie pour l'Église, il prie pour les âmes du purgatoire, il prie pour la conversion des pécheurs. Donc c'est aussi très important, quand on est à la messe, de ne pas venir à la messe uniquement avec ses petites intentions. C'est très important d'avoir des petites intentions. Souvent, c'est ce qui nous permet d'être plus attentifs. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut essayer d'ouvrir son cœur aux intentions de notre Seigneur, et essayer d'avoir un petit peu les mêmes intentions que lui. Se dire à quoi pense notre Seigneur à la messe. Et essayer d'avoir les mêmes intentions. Priez aussi pour le retour à la foi des prêtres et des évêques, qui malheureusement beaucoup d'entre eux ont perdu cette foi, hélas. Et avoir toujours cet esprit missionnaire. Et s'unir à la condition de victime avec notre Seigneur. Saint Augustin nous dit, c'est plus joli en latin, tam ipsa per ipsum quam ipse per ipsam debet offeri. Il aime bien les jeux de mots. L'Église doit être offerte par notre Seigneur comme notre Seigneur doit être offert par l'Église. Et c'est là le symbole de la goutte d'eau que l'on mêle au vin à l'offertoire. Donc à l'offertoire, quand le prêtre verse la goutte d'eau dans le calice, il faut essayer de s'offrir en union avec notre Seigneur. Ensuite, à la consécration, on doit encore s'immoler, s'unir à l'immolation de notre Seigneur, c'est-à-dire aspirer à devenir victime avec notre Seigneur et à nous immoler avec lui. Donc finalement, on peut dire que la messe doit nous inviter à offrir au bon Dieu toutes nos misères, toutes nos peines, tous nos besoins, pour ne faire plus qu'un avec notre Seigneur. Et en conclusion, je vous lirai un passage de l'Imitation de Jésus-Christ qui exprime bien, la volonté de notre Seigneur et le désir de notre Seigneur par rapport à notre assistance et notre participation à la messe. Donc c'est au livre 4, chapitre 8. « Comme je me suis offert volontairement pour vos péchés à mon Père, les bras étendus sur la croix et le corps nu, ne réservant rien et m'immolant tout entier pour apaiser Dieu, ainsi vous devez tous les jours, dans le saint sacrifice de la messe, vous offrir à moi comme une hostie pure et sainte du plus profond de votre cœur et de toutes les puissances de votre âme. Que demandais-je de vous, sinon que vous vous abandonniez à moi sans réserve ? Tout ce que vous me donnez hors vous ne m'est rien, parce que c'est vous que je veux et non pas vos dons. Comme tout le reste ne vous suffirait pas sans moi, ainsi aucun de vos dons ne peut me plaire si vous ne vous donnez vous-même. Offrez-vous à moi, donnez-vous à Dieu tout entier, et votre oblation me sera agréable. Je me suis offert tout entier pour vous à mon Père, je vous ai donné tout mon corps et tout mon sang pour nourriture, afin d'être tout à vous, et que vous fussiez à jamais tout à moi. Mais si vous demeurez en vous-même, si vous ne vous abandonnez pas sans réserve ma volonté, votre oblation n'est pas entière, et nous ne serons pas unis parfaitement. L'oblation volontaire de vous-même entre les mains de Dieu doit donc précéder toutes vos œuvres si vous voulez acquérir la grâce de la liberté. S'il en est si peu qui soient éclairés de ma lumière et qui jouissent de la liberté intérieure, c'est qu'ils ne savent pas se renoncer entièrement eux-mêmes. Je l'ai dit et ma parole est immuable. Si quelqu'un ne renonce pas à tout, il ne peut être mon disciple. Si donc vous voulez être mon disciple, offrez-vous à moi avec toutes vos affections. »